Mathieu, une discussion à laquelle tu devais participer avec le philosophe Louis-André Richard a été annulée parce que une extrême gauche a fait des menaces rapportées par la police. Donc, le libraire a préféré annuler l'événement. Est-ce qu'on peut parler de censure quand c'est quelqu'un qui, comme toi, dispose de beaucoup de tribunes?
Ben, ça dépend ce qu'on entend par censure. C'est-à-dire, il y a la définition classique, la censure qui est portée par l'État. Mmh. Interdiction. Je crois qu'aujourd'hui, on assiste à une privatisation de la censure. C'est-à-dire c'est-à-dire des groupuscules qui décident, des courants de pensée, que cette personne-là ne doit pas avoir accès à telle tribune, à tel événement, à tel colloque, à telle conférence. Et on utilisera des moyens d'intimidation, des menaces physiques ou autres, pour dire cet événement-là ne doit pas avoir lieu. Et cette espèce de censure qu'on voit de plus en plus sur les campus américains, canadiens, québécois et même en France aujourd'hui, je crois que c'est le nouveau visage de la censure.
Quand j'ai entendu que l'événement était annulé, je me suis dit, bon, c'est une forme de censure sous d'autres habits. Ce que tu appelles la privatisation de la censure, dans le fond, c'est chacun peut décider ce qui est acceptable ou pas et supprimer des voix en menaçant de perturber.
Ben, c'est la tentation nouvelle, c'est-à-dire plutôt que de débattre avec les gens avec qui on en est d'accord, donc entre adversaires légitimes, donc on n'est pas d'accord, mais on va être capable de se parler, de s'entendre, on transforme l'adversaire en ennemi public. Et dès lors, on dit cette personne, sa parole est tellement toxique, dangereuse, intolérante, effrayante, qu'on doit l'expulser du débat public, on doit le marquer du sceau de l'infréquentabilité, on doit le transformer en paria. Tous doivent savoir à l'avance que ce qu'il dit est inacceptable. Et cette manie, me semble-t-il, elle se diffuse. C'est-à-dire, on multiplie les parias, et à tout le monde, on cherche à le faire, et je vois là-dedans quelque chose de dangereux pour la démocratie.
Mais il y a quand même des discours, et le tien ne fait pas partie de ça, mais il y a des discours qui sont détestables, qui ne devraient pas avoir droit de citer.
Oui,
ça existe.
Oui, mais renversons la chose. C'est-à-dire que comment, dans une société libérale, peut-on décider formellement que lui n'a pas le droit de faire telle conférence dans tel événement, dans telle librairie, qu'en sais-je, dans tel lieu de conférence? À mon avis, la meilleure critique, ça demeure la critique. C'est-à-dire, on prend au sérieux ce qui vient d'être dit et on déconstruit, on démonte, on transforme en copeaux de bois. C'est-à-dire, ça ne me dérange pas du tout d'avoir la critique la plus virulente qui soit. Mais il y a une différence entre la critique virulente et l'interdiction de tenir l'événement, de tenir parole. Mais moi, je crois aux critiques les plus sévères, argumentées. Je ne crois pas au bâillon.
Ton nouveau livre s'intitule « L'empire du politiquement correct ». Pour toi, c'est quoi le politiquement correct?
Alors, c'est un mot qui est assez galvaudé depuis une vingtaine d'années, donc j'en propose une définition assez serrée. Je dis par rapport à ce qui est aujourd'hui l'idéologie diversitaire, donc le culte de la diversité à tout prix, sans nuance. Eh bien, toute remise en question de cette espèce de poussée vers toujours plus de diversité, toujours plus d'éparpillement de la société, d'une société concassée en mille minorités qui chacune se blinde dans leurs droits fondamentaux supposés, eh bien, dès qu'on s'oppose à ça, on a l'expulsion de la cité, on a la psychiatrisation, vous êtes phobe, hein, xénophobe, islamophobe, les différentes phobies sont nombreuses, ou encore la diabolisation. Donc pour moi, le politiquement correct, c'est cette manie d'expulser de l'espace public ceux qui remettent en question, appelons ça, l'esprit de l'époque.
Pour me donner un exemple, qui est la personne, selon toi, la plus politiquement correcte au Québec?
Ah ben, pour une fois, je vais intégrer le Canada dans le Québec, ce dont je n'ai pas l'habitude, et c'est certainement Justin Trudeau, qui est l'incarnation caricaturale de ce politically correct, de cette rectitude politique. Dès qu'on parle au Québec, par exemple, de laïcité, dès qu'on en parle, il n'accepte même pas la possibilité de la conversation, la possibilité de la discussion. Immédiatement, il dit discrimination, ségrégation. Alors, ce type de discours-là, l'assimilation de tout rapport à la nation, par exemple, est-ce qu'il faut le rapport au multiculturalisme, à la laïcité, à l'identité? Dès qu'on est en désaccord avec la vision dominante, raciste, repli sur soi, repli identitaire, tout ce vocabulaire qui cherche à transformer, encore une fois, je le dis, en monstre, un adversaire qu'il faudrait peut-être écouter.
Mais écoute, des fois, je te lis et je me dis, bon, ce qui l'énerve, c'est pas la galvanisation, la glorification des identités. Ce qui l'énerve, c'est cette diversité qui est de plus en plus celle du Québec.
Non, pas vraiment. Disons, moi, ce que je veux, c'est que ce qu'on appelle cette diversité s'intègre à la société québécoise. Il y a au Québec, c'est un projet sur 4 siècles, disons, depuis l'Amérique française jusqu'à aujourd'hui, une société francophone, une société de langue et de culture française en Amérique qui est capable de fabriquer des Québécois avec n'importe qui. On peut venir d'Afghanistan, du Pakistan, du Brésil,
merci à la loi 101.
Oui. Ben, et ça, on peut fabriquer des Québécois. Mais pour être capable de fabriquer des Québécois, encore doit-on avoir une conception, je dirais, affirmée de l'identité québécoise. Ne pas croire qu'au Québec, le français est une langue sur deux. Ne pas croire que le multiculturalisme canadien est l'horizon moral indépassable de notre temps. Ne pas croire que remettre en question le gouvernement des juges et remettre en question les droits. Assumer notre histoire et ne pas la voir simplement comme une série de pages honteuses. Et avec ça, on peut fabriquer des Québécois. Mais si le Québec lui-même s'efface, Comment peut-il intégrer? Il ne faut pas confondre l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi.
Moi, je ne doute pas que le politiquement correct existe. Je suis pour la diversité, mais quand le premier ministre du Canada se déguise pour aller dans un lieu de culte, je trouve que ça réduit, disons, les minorités à leur portion la plus religieuse. Ça m'énerve. Ceci étant dit, écoute, le politiquement incorrect ne va pas mal au Québec, là. Je veux dire, les gens qui s'opposent au politiquement correct ont plein de tribunes, comme toi. Je veux dire, le journal où tu écris n'est pas un repère de politiquement incorrect.
Faut distinguer. Est-ce qu'il y a une pluralité de voix dans l'espace public? Bien sûr, on est dans une société libérale.
Mais ces voix-là sont dominées par ce que tu qualifierais de politiquement incorrect.
Ben, moi, ce qui me semble évident aujourd'hui, c'est que ceux qu'on appellera, appelons ça les conservateurs, entre guillemets, ou la droite, j'aime pas ce mot-là, mais utilisons-le, ou les nationalistes, bien, chaque fois qu'ils sont présents dans l'espace public, ils doivent se justifier d'exister. C'est comme si leur parole était suspecte, comme s'il y avait une arrière-pensée toxique derrière ce qu'ils disent. Ah ben, ça, on l'entend tout le temps. Dès qu'on veut débattre d'immigration, est-ce qu'il est possible de baisser, oui ou non, les seuils d'immigration? Moi, je pense que c'est nécessaire, mais pourquoi doit-on toujours commencer en disant « je ne suis pas raciste, il n'y a aucune préoccupation raciste là-dedans ». Pourquoi doit-on commencer en précisant qu'on n'est pas un monstre? On devrait pouvoir débattre de ça sans qu'il y ait une forme de soupçon flottant. La question de la laïcité. Pourquoi doit-on être obligé de préciser qu'on n'est pas fermé, qu'on est ouvert? On le sait qu'on est ouvert. On est une société ouverte qui s'est construite à partir de multiples apports autour d'un tronc commun. Pourquoi toujours se justifier? Me semble, puis dans le cas plus largement, je pense, dans notre société, pourquoi cette espèce de... Parce qu'on le voit, combien d'hommes politiques nous disent, vous le disent probablement en privé, me le disent, « Ah, ça, je peux pas le dire en public. Ah, ça, je peux pas le dire en public. Ah, ça, je peux pas le dire en public. » Pourquoi ce
grand... Mais comme quoi, qui? Qu'est-ce qu'on te dit du côté politique, qu'on ne fait pas dire en public?
Je reviens à l'exemple sur la question des seuils d'immigration. Moi, c'est comme la question taboue au Québec. Est-ce qu'on peut sérieusement les remettre en question sans passer...
Mais le gouvernement le fait.
Il le fait.
Il n'y a pas eu d'émeute.
Il n'y a pas d'émeute.
Il y a eu des débats sains.
Il propose une baisse minimale pendant 2 ans en promettant de remonter pour qu'on soit bien conscient qu'il ne les baisse pas pour vrai. Moi, ce qui me fascine à travers ça, c'est cette obligation de toujours envoyer des signes ostentatoires de vertu. C'est envoyer des signes ostentatoires de probité morale dans l'espace public parce que, ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. Vous savez, la notion de dérapage. J'adore la notion de dérapage. C'est-à-dire, quelqu'un dit quelque chose qui choque un peu. Là, il se fait critiquer par je ne sais quel groupe, association. On dit, vous dérapez. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un dérapage? C'est-à-dire qu'il y a un chemin bien tracé. Ensuite, quelqu'un s'en éloigne. Des patrouilleurs de la circulation idéologique arrivent, lui collent une contravention morale, disent, vous avez dérapé. Si vous dérapez une deuxième fois, vous devenez controversé. Une troisième fois, vous devenez sulfureux. Une quatrième fois, vous êtes un infréquentable. Cette manie, me semble-t-il, de traiter de dérapeurs compulsifs, tous ceux qui sortent de la norme, ça m'agace.
Mais disons, ceux qui font des obsessions, qui écrivent tout le temps sur l'islam, est-ce que ça peut être des dérapages?
Mais un instant, ça, c'est une drôle de question. C'est-à-dire, en 1950, en Occident, il était normal d'écrire souvent sur le communisme, parce que c'était la grande question de l'époque. Aujourd'hui, la grande question de notre époque, c'est pas seulement l'islam, c'est la question de l'identité, du vivant.
Maintenant, quand on regarde dans le rétroviseur historique, on réalise qu'il y avait aussi beaucoup de paranoïa face au communisme.
Si j'étais un Russe, si j'étais un Roumain, si j'étais un Tchèque...
Mais si vous êtes à Montréal ou à Toronto en 1950, il n'y a pas de grande peur communiste. Il n'y a pas de grand péril communiste.
C'était la question de l'époque.
Évidemment.
Aujourd'hui, la question de l'époque, c'est la question identitaire. C'est la question du rapport entre les civilisations. Et cette question-là, elle nous habite tous. On dit quelquefois que c'est une fausse question.
Regarde.
Pourtant, c'est la seule qui passionne dans l'espace public.
Quand je te lis, quand je lis certains chroniqueurs de ton journal... Des fois, j'ai l'impression que le problème le plus pressant au Québec, c'est le hijab.
Non, ça fait...
Mais vraiment,
non, c'est pas comme
des
ça.
Fois, des fois, tu lis la palette de chroniqueurs, tu dis, OK, non. La chose la plus importante cette semaine au Québec, c'est une fille qui porte un hijab.
Je dirais que quand je lis ton journal, le problème le plus inquiétant au Québec, c'est la montée de l'intolérance et de l'islamophobie et de la discrimination
sociale. Absolument.
Systémique. Bon, alors, de ce point de vue, peut-être y a-t-il plusieurs...
Quand les fascistes rentrent dans des lieux de culte pour tirer sur du monde, je trouve ça inquiétant.
Mais évidemment, un instant. Et quand, par ailleurs, des gens d'extrême gauche sont capables de faire annuler des conférences, je trouve ça inquiétant.
Ils n'ont pas tué personne jusqu'à maintenant. Mais ça n'en est pas moins détestable.
Non, mais la question n'est pas là. Moi, ce qui me semble, cela dit, c'est que ce n'est pas une question d'obsession maladive. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose partout en Occident. Comment réussir à faire vivre ensemble des populations qui n'ont pas une vocation nécessairement naturelle à cohabiter? C'est difficile, la cohabitation. C'est difficile de vivre ensemble. Or, ce qu'on constate, c'est que les sociétés d'accueil en Occident de plus en plus demandent comment s'assurer de perpétuer notre identité, de la continuer, d'intégrer ceux qui arrivent à cette culture commune. Donc, la grande question de notre époque, c'est la question identitaire. On peut penser qu'il y en a d'autres, mais à mon avis, c'est la question identitaire. Donc, inévitablement, on en parle davantage que d'autres questions en d'autres temps. Je pense que c'est la question qui, aujourd'hui, traverse notre civilisation. Il y a différentes réponses possibles, mais faire semblant que c'est une fausse question, c'est une manière de tasser le problème, et un jour, il nous reviendra.
Merci, Mathieu Bocoté.
Au grand plaisir.